sommes toujours dans Remue Ménage, Entre Femmes, Radio Zone 93.8, en compagnie d'Anne Plattner et... C'est cette musique qui me poursuit. Anne Plattner et de Pierrette Iselin, qui toutes les deux sont allées au Chiapas cet été lors de la rencontre intercontinentale pour l'humanité et contre le néolibéralisme. Alors, les femmes ont été reléguées dans une sous-table des minorités exclues, c'est ça?
Oui, les femmes n'étaient pas très contentes et elles l'ont fait savoir. Elles étaient donc, elles étaient une sous-table de la société civile exclue. On retrouve là cette longue litanie qui est souvent en queue de liste des programmes politiques et syndicaux. Les femmes, les homosexuels, les séropositifs, les toxicomanes, les vieux, les enfants, etc., etc.
Et les femmes.
Et les femmes. Donc là, elles se sont, elles ont protesté. Et, enfin, tu nous en parleras plus. Elles ont aussi écrit un texte où elles défendent leur position, c'est le Yabasta des femmes féministes et des lesbiennes, où elles expliquent en fait qu'elles ont aussi beaucoup de choses à apporter à un mouvement comme le mouvement zapatiste, parce que bien sûr le néolibéralisme c'est un ennemi, mais les femmes elles luttent contre le patriarcat depuis des décennies et elles ont déjà développé des formes de lutte et de réflexion qui peuvent aussi rencontrer les formes développées par d'autres mouvements libertaire ou autonome, et donc elle proteste vraiment contre cette exclusion. Donc quand même il y avait ce couac de cette mise à l'écart, ouais. De cette relégation, ouais. Des femmes parmi les exclus des exclus.
Disons que ça a été vécu comme ça très fortement par certaines femmes, peut-être pas par toutes, hein, il faut dire. Mais ce qui était frappant dans la rencontre, c'est que le nombre de femmes était très 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 important. Et on sait que dès le début du mouvement zapatiste, les femmes se sont senties proches, les féministes, les femmes en général, se sont senties proches de ce mouvement. Parce que, justement, il y a cette idée chez les zapatistes qu'on a expliqué bien des fois de faire de la politique autrement, d'essayer de réinventer une manière de faire de la politique qui est proche du cœur des femmes, je crois, et de ce qu'elles ont essayé de faire depuis longtemps. Donc elles étaient très nombreuses, et elles avaient été spécifiquement invitées. Les femmes lesbiennes avaient, en particulier, avaient été très sensibles d'être mentionnées dans l'invitation de Marcos. Et tout le monde arrive plein d'énergie, et voilà que le premier jour à Oventic, on nous a... annoncer que les femmes allaient être cantonnées dans une sous-table avec, je crois, l'écologie, les migrations. Enfin, c'était pas très clair. Alors, il y a eu protestation immédiate, et les femmes ont réussi à obtenir leur propre espace autonome, qui était d'ailleurs le plus beau podium, avec tous les instruments de musique. Donc elles pouvaient faire de la musique et danser pour couper les discussions. Elles étaient très très bien installées, et on leur a accordé, enfin elles ont réussi à obtenir une soirée entière de discussions consacrées aux femmes, et que les femmes, le thème des femmes soit traité dans toutes les tables comme à un aspect spécifique de chaque question posée. Voilà.
Et ça s'est passé effectivement.
Donc, ça s'est passé. Je dois dire que j'ai rarement assisté à des discussions où les femmes aient été autant respectées. Bon, elles l'avaient gagné de haute lutte, mais je vous assure que même les plus machos s'écrasaient quand il y en avait un qui, par hasard, était un peu macho. Il y avait tout de suite un autre homme, généralement, qui faisait respecter la présence des femmes. Donc, je dois dire qu'à ce niveau-là, c'était assez remarquable. Bon, alors ce Yabasta qu'elles ou que nous, je ne sais pas parce que j'étais un peu entre les deux, qui est sorti consiste en ceci. Donc, les femmes, comme tu disais, Viviane, soulignent que leur longue histoire de lutte contre le patriarcat leur a donné une expérience, une sagesse, et qu'elles offrent. Elles offrent tout cet acquis au mouvement zapatiste. Elles estiment qu'elles sont nécessaires dans ce mouvement parce qu'elles savent, déjà beaucoup de choses, et qu'elles pensent que les luttes ont des points communs. Elles remercient aussi les zapatistes de tout ce qu'ils ont amené aussi au monde masculin, en fait, comme compréhension. Et elle souligne les points communs qu'elles ont avec eux, notamment une conception du pouvoir qui ne soit pas verticale, une revendication de l'utopie, et puis de faire passer la parole avant la violence. Voilà. Et par rapport à l'invitation et la réalisation, l'espace qui leur avait été dévolu, elles ont souligné cette contradiction en disant que, en fait, ça n'avait pas été très juste que ceux qui avaient organisé la division des tables s'y étaient mal pris parce qu'ils avaient reproduit une division entre affaires publiques et affaires privées. Les affaires publiques étant la messa politique et la messa économique, avec un maximum d'hommes, je ne sais pas si c'était vrai, mais... et puis les femmes, on les avait mises dans le social, c'est-à-dire avec l'éducation, la santé, les enfants, les services publics, la sexualité, enfin tout ce qui impliquait servir les autres. Donc elles ont bien insisté sur le fait que tant que ce genre de division subsisterait, on ne pourrait pas parler de nouvelle société. Et elles ont réclamé que pour les prochaines rencontres, on étudie une méthodologie, une façon de faire participer qui tienne compte de leur présence de façon à ce qu'elles puissent intervenir aussi dans les domaines publics. Et puis...
C'est étonnant d'ailleurs, parce que en même temps, les femmes, comme tu l'as dit tout au départ, elles ont une place très forte dans le mouvement zapatiste. Elles sont très présentes, on les voit, et elles sont arrivées à imposer, par exemple, cette fameuse ley seca, le fait qu'il n'y ait pas d'alcool. C'est vraiment une chose que les femmes ont imposée dans un discours contre la violence. C'est ça qui est aussi. Elles ont mis sur la scène politique militaire le fait qu'elles en ont marre de se faire tabasser par leur mari. Et que donc ils doivent arrêter de boire pour ne pas souffrir de leur violence. Et donc il y a aussi, alors même, c'est rigolo parce que quand on lit les écrits de Marcos, il y a un moment où il raconte un peu la première révolution qu'il a dit, c'est la première révolution zapatiste avant la prise de Saint-Christobal, où c'est les femmes qui effectivement ont dit ya basta, on en a marre, maintenant nous allons aussi nous exprimer. Et toi Pierrette, un peu en marge de cette réunion, avant cette réunion, tu as rencontré des communautés indigènes et tu t'es principalement intéressée aux femmes indigènes.
Oui, justement, je me suis intéressée aux femmes indigènes, d'autant plus que j'avais lu, comme tu viens de le dire, des déclarations de Marcos, des textes, et des textes aussi des zapatistes, des textes aussi comparus sur les femmes dans les cahiers du féminisme, peut-être vous connaissez. Et grâce à ça, j'étais très intéressée parce que, effectivement, les déclarations des zapatistes sont telles qu'ils ont plusieurs fois dit que la première de leur victoire, ça a été celle des femmes, des insurgés, des indiennes, des bas appuis, et d'autant plus que les indiennes ont réussi à faire admettre leur participation pleine et entière aux maris jaloux et aux fiers guerrières aux machistes qu'il y a pu avoir dans les premiers temps. Et il y a à tel point qu'il y a un tiers de cette armée qui est composée d'indiennes et que la société civile qui s'est organisée depuis le 1er janvier 1994 est principalement composée de femmes. Alors, trois jours avant la rencontre, avec des camarades belges qui allaient aussi participer à la rencontre depuis le samedi, nous avons pu aller dans une communauté, enfin dans trois communautés qui se trouvent derrière Oventic, justement. C'est une communauté indigène de Bayalemo. Alors on a pris une camionnette et on a passé justement l'endroit des négociations, la de San Andrés des pauvres, où justement les négociations entre le mouvement zapatiste et le gouvernement ont lieu régulièrement. Et sur les femmes, d'ailleurs, il faudrait dire, bien que les femmes aient plusieurs fois, les femmes indigènes, avancé des revendications propres concernant la terre, le droit à la terre, le droit à l'héritage de la terre, le droit à être reconnu. Eh bien, toutes ces discussions concernant les femmes indigènes, pour le moment, sont bloquées et elles n'ont pas eu d'effet immédiat. Et alors après qu'on ait passé cette Sainte-Andrés, nous avons pu aller Dans une première communauté, nous sommes arrivés là en plein air. Il y avait toute une série de femmes qui tissaient devant des cabanes et des huttes, d'ailleurs assez misérables, et qui nous ont accueillis avec l'hospitalité coutumière à ces régions. D'abord parler de leur travail, ensuite elles nous ont montré ce qu'elles faisaient. C'était des magnifiques blouses qu'on appelle qu'elles mettent avec les jupes. Et il y avait une participante qui était là et sur laquelle elles ont tout de suite mis le huipil hein, et la jupe. Et c'était une participante belge qui est d'ailleurs une sœur qui soutient plusieurs communautés zapatistes et qu'elles ont habillée tout de suite pour nous mettre à l'aise. Et il y a eu tout de suite quelque chose qui s'est passé parce que la camarade belge qui est avec nous est habillée comme elle. Et alors là, bon, bien qu'elles parlaient toutes leur langue, c'est-à-dire le tsotsil, qui est une des langues indigènes, entre autres, il y a eu tout de suite un échange qui s'est produit. Alors, nous accompagnait une femme qui traduisait, donc qui parle le tsotsil, mais qui a appris l'espagnol. Elle l'a appris d'ailleurs très tard, elle était analphabète, elle l'a appris qu'à l'âge de 18-20 ans. Et en même temps, elle a appris à lire, à écrire. Et elle servait de lien entre les femmes de ces communautés et entre la ville où elles avaient un local. Et c'est elle aussi qui faisait la comptabilité de ces communautés. Alors après, nous les avons quittés et nous sommes allés dans la communauté qui se trouvait à quelques kilomètres de là, plus importante, où là tout le produit de la vente, enfin tout le produit de ce qu'elles font, des tissages, est réuni là. Et là, elles avaient une séance de discussion pour voir justement comment elles se partageaient l'argent qu'elles avaient gagné, qui avait donc tout le produit de leur tissage a été vendu. Et elles discutaient là pour savoir comment cet argent, elles allaient se partager. Alors, il y a toujours un 85% qui va pour elles et un 15% pour la communauté, pour assurer justement l'écoulement des produits, la location du local, et aussi assurer la comptabilité, le transport, etc. Et on a senti que c'était un moment très dur, qu'elles avaient été en butte à une série de problèmes, de répression. Certaines ont raconté qu'elles ne pouvaient plus se mouvoir en liberté, qu'elles étaient constamment agressées quand elles allaient à la rivière par des soldats, que d'autres soldats, des fois, venaient les narguer jusqu'au pied de leur porte quand les hommes n'étaient pas là et que les enfants avaient peur, que même certaines avaient été violées récemment. Et l'élément le plus marquant, qui les avait le plus marqués parce qu'ils venaient de se produire, c'est que leur local, venait d'être mis à sac, c'est-à-dire complètement dévasté, que les machines à coudre avaient été toutes détruites, la seule machine à écrire aussi, le fax qu'elles peuvent avoir qui leur permet justement de faire des liens avec l'étranger aussi a été complètement saccagé. Et cette mise à sac avait été précédée par des menaces de mort qui avaient été faites sur les responsables. Donc, moi, ce que j'ai admiré, c'est qu'elles venaient de passer par un événement très, très fort. Leur local, elles n'avaient pas eu de moyens de retrouver un autre local. Elles ne l'ont pas encore, donc elles n'ont plus de local dans la ville de San Cristobal pour écouler leurs produits. Et elles sont actuellement à la recherche de quelque chose, mais elles n'ont encore rien retrouvé. Alors moi, après avoir discuté très intimement avec elles, j'ai eu la ferme conviction que c'est effectivement très très dur, d'une part d'être femme, parce que comme femme, elles vivent en plus une deuxième situation d'oppression où elles doivent faire tous les travaux quotidiens, les enfants, assurer la cuisine, bon, faire le tissage, essayer de faire produire le seul lopin de terre qu'elles ont, mais qui est de plus en plus diminué parce qu'on leur enlève une partie de leur jardin. Donc, s'occuper des enfants aussi en bas âge qui sont soumis à des maladies, qui sont mal nourris, etc. Et en même temps, comme indiennes, elles sont soumises aussi à une deuxième répression qui attaque toutes les communautés indigènes là-bas. Et donc, elles ont bien expliqué que grâce... Moi, j'ai essayé de leur demander, mais est-ce que vous avez encore du courage après tout ce qui vient de vous arriver ? Et elles ont expliqué qu'au fond, pour elles, l'espoir de l'assistance et surtout leur participation dans les communautés soutenues par les apatistes, pour elles, était très importante parce que grâce, ça leur permettait de s'organiser, ça leur permettait de se sentir défendues et de sentir quand même qu'elles pouvaient sortir de cette ornière. Mais il faut reconnaître qu'il y a des dangers qui les menacent constamment et que l'armée mexicaine, d'une part, essaie de les attaquer et d'autre part, que même le parti, le parti gouvernemental au pouvoir, essaye aussi de les diviser les communautés, faire valoir des mirages à d'autres communautés de femmes pour qu'elles quittent les communautés apatistes, des mirages économiques, soi-disant plus valorisants pour elles. Et j'ai bien peur que si elles continuent à rester dans cette situation de tension, pour elles, l'avenir va être très difficile. Et moi, je crois que à la fin, elles ont bien dit qu'il faut que cette armée sorte du Chiapas. Pour nous, nous voulons la paix. C'est aussi pour ça que nous avons lutté. Nous avons lutté à bien avant 1994 pour la paix. C'est pour ça que nous avons constitué des comités civils aussi pour la paix à San Cristobal. Donc il n'y a pas de raison que cette armée reste là. Et tu vois bien que nous sommes aussi des communautés pacifiques, m'ont-elles dit en me quittant. Et alors j'ai toutes ces images de femmes, d'une part de ces communautés, et d'autre part aussi, là quand j'étais dans la Mesa Económica à Roberto Barrios, où les femmes aussi nous ont raconté comment elles avaient dû fuir. Donc quand il y a eu l'attaque de février 1993, par l'armée gouvernementale mexicaine, elles avaient dû tout abandonner en une nuit, quoi, partir dans la montagne. Et si les enfants étaient trop en bas âge, elles ont perdu les enfants. Et là, c'était aussi un moment très émouvant.
Pensar en
C'est Amparo Ochoa qui chante ici « Femme, mujer ». C'est comme ça qu'on dit, moi, avec mon accent portugais, je ne sais pas quoi, français, dans mon espagnol. Ça donne des choses bizarres. Donc, une femme chanteuse mexicaine. Nous allons devoir conclure. Le temps défile à la vitesse grand V. Et nos invités, Anne Flattner et Pierrette Isla, auraient des milliers de choses à nous raconter encore avec leurs petits carnets de route et les grands écrits qu'elles ont faits ailleurs. Malheureusement, il faut conclure et la réunion s'est elle aussi conclue cette rencontre une fois.
Alors elle s'est conclue, je crois, par le fait que tout le monde est revenu à la realidad. Donc il y a eu de nouveau une rencontre globale. Tous les participants se sont retrouvés à la realidad, qui est un peu vraiment l'état-major de l'armée zapatiste, là où se trouve Marcos, on imagine du moins. Et c'est là que les déclarations finales et les résolutions finales ont été décidées.
Oui, alors ça a été une très très longue clôture sous un soleil brûlant, mémorable.
Pour une fois, pas de pluie.
Non, pour une fois, il faisait terriblement trop chaud. Et là, les apatistes nous ont obligés à écouter jusqu'au bout. C'était d'ailleurs assez intéressant. Mais il y a eu des quantités de résolutions prises et c'est impossible de résumer tout ce qui a été dit parce que c'est trop et les papiers ne sont pas encore sortis. À ce moment-là, on était tous un peu zombies. Enfin, il y a une quantité d'idées qui ont circulé, des journées mondiales et des actions, des journées anti-néolibéralisme, des journées de la dignité, des petits réseaux mondiaux de toutes sortes, des banques de projets, et j'en passe. Mais à la fin, donc, Marcos est venu et il a pris la parole pour énoncer ce qui s'est appelé la deuxième déclaration de la realidad, et dans laquelle il nous propose de lancer une consulta dans tous nos pays. Alors les consultas sont des consultations qui sont une habitude au Mexique, du moins une habitude que les zapatistes ont suscitée, par lequel on consulte le plus grand nombre possible de personnes, soit dans la rue, soit en passant par des organisations, etc. Alors là, on était tous un petit peu perplexes quant au contenu de cette déclaration qui mériterait qu'on s'y attarde, mais on n'a pas le temps. Il s'agit en fait de se prononcer. En fait, c'est un texte qui est d'une simplicité, mais à mon avis trompeuse, parce qu'il fait appel à toutes sortes de valeurs. Il commence ainsi... Dans le sens où nous sommes contre, suit une série de termes, contre la dictature, la faim, la pauvreté, le patriarcat, l'injustice, l'oubli, etc. C'est-à-dire le néolibéralisme. Et dans la mesure où nous sommes pour l'humanité, c'est-à-dire l'espoir, la paix, la liberté, la culture, la mémoire, etc. Je simplifie, je passe trop vite. Dans la mesure où nous serions contre et pour ceci, est-ce que nous serions d'accord de créer un réseau de résistance au néolibéralisme qui ne soit pas une structure organisationnelle avec une hiérarchie et une direction, mais qui soit quelque chose qui reste à définir? Le réseau, c'est nous tous qui résistons. Hein, et il y avait cette belle idée que tant que nous sommes séparés, Si nous sommes ensemble, nous sommes une assemblée, et quand nous sommes séparés, nous sommes le réseau. Donc voilà, c'est ceci qu'il faudrait essayer de faire passer auprès du plus grand nombre de gens possible d'ici au mois de décembre, parce que les apatistes sont un peu pressés toujours. Et puis la deuxième proposition de Marcos, c'était qu'il y ait une seconde rencontre l'année prochaine. Et il suggérait, il demandait que cette rencontre ait lieu en Europe. Et il a ajouté que les apatistes feraient tout leur possible pour être présents en chair et en os et continuer à nous insuffler un peu de leur esprit. Donc voilà, c'est terminé sur ces deux points.
Et je voulais juste citer quand même la fin, parce que je trouve qu'elle est importante. Frères et sœurs, nous continuons à être mal à l'aise. Ce que nous disent les théoriciens du néolibéralisme est faux, que tout est en ordre, y compris ce qui n'est pas en ordre. Nous ne sommes pas la soupape de sécurité de la rébellion qui déstabilisera le néolibéralisme. Il est faux de prétendre que notre existence rebelle légitime le pouvoir. Le pouvoir a peur de nous, c'est pour cela qu'il nous poursuit et nous encercle, c'est pour cela qu'il nous met en prison et nous tue. En réalité, nous sommes une éventualité qui peut le renverser et le faire disparaître. Peut-être bien que nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes des hommes et des femmes qui luttent pour l'humanité, qui luttent contre le néolibéralisme. Nous sommes des hommes et des femmes qui luttent dans le monde entier. Nous sommes des hommes et des femmes qui voulons pour les 5 continents la démocratie, la liberté, la justice.
Belle fin
et beau programme.
Et beau programme. Alors, donc la journée là, c'était la fin et vous êtes tous repartis plus ou moins bien.
On est repartis plus ou moins bien, mais une chose que je voulais dire, c'est que les 3000 participants qui étaient à cette rencontre internationale contre le néolibéralisme, quand ils ont quitté la Realida, où ils s'étaient rassemblés donc pendant une semaine, ils étaient profondément convaincus d'une chose, c'est que le répit dans les affrontements entre le pouvoir et l'armée zapatiste, qui avait permis malgré tout cette rencontre, ou dans laquelle elle succède cette rencontre, pouvait être remis en cause à tout instant. D'ailleurs, il y a quelques jours, enfin c'est au début août, les Hélènes ont pris la décision de se retirer de la table des négociations. Et je pense que c'est une décision qui intervient parce que, une fois de plus, le gouvernement ne prend pas au sérieux les propositions des apatistes. Et je crois qu'il y a une accentuation de la répression actuellement qui est telle qu'il faut qu'on soit vigilant. On est parti de là-bas, on a encore des images tout plein, on voit ces communautés indiennes qui nous ont escortés jusqu'à la fin, qui se mettaient sur le bord des rivières pour nous dire au revoir. Eh bien, je pense qu'on a un certain devoir vis-à-vis d'eux.
Tout à fait, je crois qu'on a beaucoup, beaucoup de devoirs. Moi, je suis personnellement partie très, très chargée, de responsabilités. Ils nous ont demandé de ne pas les oublier et puis ils nous ont demandé aussi de ne pas nous oublier nous-mêmes. Et j'ai l'impression qu'on a beaucoup appris, on s'est beaucoup transformé à leur contact. Et j'espère juste que ça va perdurer parce qu'ici c'est plus dur. Et s'il reste encore 2 secondes, je voudrais juste encore ouvrir mon petit carnet. Puis le carnet des graffitis. Il y avait aussi à la Realidad 2 phrases. La lune et l'espérance toujours reviennent. Et puis, nous sommes une armée de rêveurs, c'est pourquoi nous sommes invincibles. Alors, c'est vrai, c'est un peu ce que nous sommes, mais tous les non-rêveurs qu'ils viennent avec nous, s'il vous plaît.